Radio Campus.
Rencontrer quelqu'un, c'est pas une question de don, c'est une question de chance.
Non, non, mais c'est bon, arrête.
Bah, qu'est-ce qu'il a? Il est aveugle, le pauvre garçon?
Oh, il est trouillard, le pauvre garçon.
Ah, tu vas me torcher. Torcher la gueule à faire tes jingles. Espèce de bourgeois, tu bouffes pas la peau du poulet alors que moi, je l'achète pour ça.
Allez-vous-en, j'en ai fini avec vous. Sauf pour exiger ma vengeance.
Fais un film.
Votre 7 à 8 cinéma, tous les mercredis sur Radio Campus 88.3 FM.
Avec nous, venez faire le plein de bobines. Rendez-vous à la prochaine séance. Alors, on se fait un film.
Le mercredi, de 19h à 20h, sur Radio Campus 88.3 FM.
Et bonsoir, chers auditeurices. Et maintenant, c'est l'heure de parler cinéma, de l'actualité cinématographique, des films à l'affiche en ce moment au cinéma. Et je ne suis pas toute seule, heureusement, pour en parler. J'ai mes deux acolytes. Gob, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir Céline, bonsoir auditeurs et auditrices. Et malgré le monde qui va autour de nous, il faut continuer à aller au cinéma. C'est quelque part, c'est un peu un acte de résistance aussi.
Apparemment, ça peut éveiller les consciences. Et bonsoir Claude.
Bonsoir.
Comment tu vas?
Ça va, je salue bien bas toutes nos fidèles auditrices et auditeurs. Et comme je dis toujours... Nous sommes en période de forte chaleur. Allez au cinéma, c'est climatisé.
Parfois trop.
Eh bien, après cette petite introduction, je vous propose de parler de l'actualité toute chaude qui est le Festival de Cannes. Vous avez dû voir l'information, l'ouverture a eu lieu hier, 17 mai. Donc le festival qui va se dérouler jusqu'au 28 mai pour découvrir toutes les productions cinématographiques mondiales, en tout cas une très belle sélection. Le président du jury cette année, c'est Vincent Lindon. Et bon, je vais pas donner toute la programmation, mais en tout cas, j'ai quand même hâte de voir les films de la sélection officielle parce que nous avons donc quand même David Cronenberg qui revient.
Et donc... qui en plus revient à son genre de prédilection des années 70-80, c'est-à-dire la body horror qu'il n'avait plus fréquenté depuis 1999 et Existence. Donc on attend d'autant plus avec impatience son film.
Il y a aussi le dernier des frères Dardenne, il y a celui de Claire Denis, le Kore-eda, le Park Chan-wook, le Kelly Reichardt, le dernier aussi film de Valeria Bruni-Tedeschi, donc voilà des grands noms qui donnent vraiment envie de découvrir cette
Bouzon,
sélection.
Tu vas faire l'ouverture.
Et alors Bouzon, oui,
Bouzon,
bah
Bouzon.
Oui, bah oui, oui, effectivement aussi. Non, mais il y a beaucoup de films. J'espère qu'ils vont vite sortir en salle.
Il y en a déjà un certain nombre qui sortent là dans les 2-3 semaines qui viennent, et d'autres qui, je pense, un certain nombre qui vont sortir puisque la politique de Cannes a changé. Hein. Moi, je me rappelle qu'il y a encore une dizaine d'années de ça. 15 ans, c'était il fallait sortir le plus tard possible les films en sélection. Maintenant, il faut les sortir le plus tôt possible.
Oui, parce qu'il y a déjà le Dépléchant, Frères et Sœurs, qui est déjà sorti. C'est vrai que c'est totalement différent par rapport aux éditions d'avant. Oui, les sorties, le calendrier évolue, s'adapte certainement aux nouvelles pratiques. Voilà pour l'actualité. Je vais laisser maintenant la parole à Claude parce que tu as un hommage à faire.
Oui, alors j'aurais parlé d'un garçon qu'on a beaucoup aimé ici, Fabien, moi et d'autres, qui s'appelait Michel Polis. Et Michel Polis était un très grand cinéphile. C'était un garçon qui avait une connaissance, qui avait une vraie culture. C'est-à-dire qu'il n'avait pas une culture comme ont beaucoup de gens maintenant. Il était capable de replacer chaque chose dans son contexte et dans son histoire, ce qui est assez rare. Bien qu'il soit plus âgé que nous avec Fabien, il avait une mémoire extraordinaire. Quand on était tous les deux avec Fabien, et on disait, oh, c'est en 43, là, dans le film, qui est-ce qui avait le premier rôle ? Attends, on appelle Michel. Michel, oui, c'était un... Oh, mais une mémoire phénoménale. En plus, c'était un homme aussi, quand je disais, de très grande culture, parce que c'était aussi un homme de théâtre. Il connaissait extrêmement bien le théâtre. Et comme il parlait toujours de son cher Truffaut. Et de plus, c'était sur le plan... intellectuel, moral, ce qu'on appellerait un honnête homme au sens du 18e siècle. C'est-à-dire, c'est assez rare de nos jours. Le seul reproche que j'avais à lui faire, c'est qu'il était quand même très bon public. Pour qu'ils disent qu'un film soit une pochade, il me l'avait dit une fois, dit ce film-là, finalement, c'est jamais qu'une pochade. Je me souviens, j'arrive pas à retrouver quel film c'était, mais là, faut dire que c'était, je me souviens plus ce que c'était comme film, mais c'était quand même très très mauvais, et il avait quand même bien raison. Donc, pour nous, avec Fabien, c'était un, et avec Michel d'ailleurs, avec Michel Grasset, c'était un exemple. C'était personne assez grande culture musicale aussi. Il n'oubliait jamais d'aller dans la vallée de Georges Sand, qui est la vallée bleue, je crois, écouter le festival de musique, le festival de musique. Donc c'était vraiment un homme de
goût.
De goût, et surtout pas de goût de pacotille. C'est lui d'ailleurs qui nous avait emmenés à cette association de cinéma qui s'appelait au théâtre, si on se souvient, Céline, qui s'appelle La Chèvre qui danse, ou je ne sais plus comment s'appelait cette association de cinéma, où on pouvait voir des films quand même très, 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 très rares. Donc, Michel, eh bien, écoute, paix à ton âme, mais sache que tu nous as beaucoup apporté.
Bah écoute, moi, je ne l'ai pas connu, mais vous m'en avez souvent parlé. Donc, voilà, moi, je salue. Moi, de toute façon, je salue tous les gens qui sont des cinéphiles, comme disait Serge Danet, qui sont les passeurs, des gens qui apportent la bonne parole du cinéma aux autres et qui communiquent leur passion. Voilà. Moi, je pense que le cinéma, ça reste avant tout une passion qu'on a envie de faire partager. C'est ce qu'on fait, nous, ici, à chaque fois qu'on est là. Et je pense que c'est ce que lui a fait toute sa vie. Et, il faut le saluer. Il faut saluer le bonhomme pour ça.
Oui, et j'ajouterais, puisqu'on se permet de chroniquer les films des autres, et moi particulièrement, et je crois tous ici, ce qui nous intéresse, c'est pas de faire une belle critique comme font les très officielles critiques de cinéma. Non, c'est qu'on essaye de vous faire découvrir les films pour que vous y alliez. C'est ça notre but, aller au cinéma, vous donner le goût d'aller au cinéma et de voir les films peut-être autrement.
Oui,
tout à fait.
Tout à fait, oui.
Tu as bien raison, Claude.
Effectivement, c'est notre envie première, c'est d'inciter les gens à aller au cinéma, de les regarder aussi avec un autre regard et d'apporter, nous, notre vision sur chacun de ces films. Merci beaucoup, Claude. Oui. J'en profite aussi pour faire un coucou. Alors, Fabien, Michel et Manu.
Et Sertu Manu, qui est dans les couches culottes en ce moment.
Hein. Et oui, on espère bientôt les revoir aussi dans l'émission et que ça tourne un peu entre les membres. Eh bien, on peut commencer à chroniquer les films. Il y en a deux qui ne sont plus à l'affiche. On peut peut-être en parler. Il y a Vortex. Tu souhaites... Alors, j'en ai parlé il y a deux semaines, mais je veux bien aussi, du coup, ton avis, Gob, sur le film.
Bah écoute, Céline, pour tout te dire, je ne t'ai pas écouté.
Donc c'est...
Je m'en excuse, mais je ne t'ai pas écouté, Céline. Donc, si tu peux, en quelques mots, me dire si tu avais dit du bien ou du mal du film, qu'est-ce que tu en avais pensé, pour que je puisse rebondir.
Je l'ai beaucoup apprécié, d'accord, ce film. Donc, c'est le dernier film de Gaspard Noé. Je te laisse du coup en parler. Okay. Je vais rebondir sur ce que tu vas dire, mais oui, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé.
D'accord. Bah écoute, moi aussi, j'ai beaucoup aimé le film. Gaspard Noé, c'est vraiment un cinéaste très particulier dans le cinéma français. Ça fait plaisir qu'il y ait des cinéastes comme ça qui existent, qui puissent continuer à faire des films, même si on sait que c'est pas toujours facile. Là, il a choisi une fois de plus un sujet difficile, un sujet âpre, puisqu'effectivement, ça parle de la vieillesse, de la mort, du temps qui passe, de la mémoire qui s'enfuit, de la maladie et de tout son cortège de choses sales et repoussantes et qu'on ne montre pas forcément d'habitude. Qui l'accompagne. Et Noé, comme toujours dans son cinéma, il fait ce que certains trouvent superbe et ce que d'autres trouvent rejettent parce qu'ils supportent pas. C'est de faire durer, d'étirer ses séquences au maximum. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est un tour de force parce que de ces séquences étirées jusqu'au malaise, même au bout du malaise. Il réussit à tirer au bout du compte une émotion incroyable. Et là, dans ce film-là, c'est vrai qu'au bout du bout, il y a des scènes qui sont d'une âpreté et d'une poésie en même temps et qui créent en toi une émotion incroyable. Et tu te fais, à chaque fois, tu te dis, ce gars-là me piège à chaque fois. Parce que tu te dis, il fait un cinéma finalement très conceptuel, très construit dans le concept et... tu te dis, je vais pas me faire quelque part, même des fois tu es un peu réticent, tu te dis ça suffit Gaspard, c'est bon là. Hein. Et puis tu te rends compte à la fin que il a réussi encore à t'étrangler d'émotions. Et moi je dis, ce type-là, c'est un vrai tour de force à ce niveau-là, il a un vrai univers, il a un vrai regard, et il y a tellement peu de cinéastes de cet acabit et qui ont le courage de faire des films aussi radicaux. Et aussi intelligent en même temps que moi, je tire mon chapeau à Gaspard Noé.
Non, je n'ai pas vu ce film pour des raisons autres, et je vous l'ai dit, que cinématographique. Moi, j'adore Gaspard Noé, qui est vrai. Alors, je ne sais pas dans ce film si c'est vrai, mais pour moi, c'est un cinéaste de l'image. C'est vraiment un type qui sait faire parler les images. Ils sont très peu dans le cinéma français. Vraiment, très, très peu. Dans le cinéma mondial, il y en a quelques-uns, mais dans le cinéma français, il n'y en a pas beaucoup. Et il en fait partie, ce garçon. Et il a toujours, comme tu disais, il apporte quelque chose de autre que les autres cinéastes. Il a un regard, un avis complètement différent. Et c'est pour moi quelqu'un d'origine argentine, je crois.
Oui.
Les Argentins sont très bons au cinéma. Je sais pas où ils apprennent le cinéma, mais ils sont très bons. Il apporte toujours quelque chose. Au cinéma.
Ah, effectivement, dans la filmographie de Gaspard Noé, Vortex, c'est peut-être un des plus accessibles, je trouve, pour commencer dans sa filmographie. C'est peut-être un bon premier film pour découvrir son univers, et parce qu'après, les autres sont aussi très intéressants cinématographiquement. Mais ça peut aussi refroidir beaucoup de spectateurs.
Il semble plus que ça refroidit du monde vu le passage éclair du film dans les salles.
Oui. Par exemple, vrai, notamment, oui.
Il faut être lucide. Hein.
C'était Amour, son film.
Non, là, c'est Haneke.
Amour, c'était Haneke. Sur un thème très proche.
Comment il s'appelait, c'est le film
Alors, après, il y a eu Irréversible.
Non, avant Irréversible.
Climax.
Et avant Climax.
Et avant Climax, il y avait un moyen métrage. Il y avait eu le moyen métrage, dont j'ai oublié le nom, le titre, avec Charlotte Gainsbourg.
Parce qu'il y a Lux Eternae.
Cette histoire.
Lux Eternae, c'est ça. Comment? C'était le moyen métrage qu'il avait fait juste avant Vortex.
Bah, je vous retrouverai le film tout à l'heure et je vous le dirai, mais qui était un film exclusivement sur l'image, ce qui est très, très, très rare.
Mais là aussi, sur Vortex, hein, effectivement, ouais. Il utilise aussi le dispositif du split screen qui maîtrise vraiment bien. Je trouve que c'est très intéressant ce que ça donne comme sensation. C'est vraiment bien. Et je trouve que c'est un film terrible qui montre la réalité de la fin de vie. Et c'est bien parce qu'il y a... Et oui, c'est difficile, mais on a un problème dans notre société avec ça.
C'est vrai qu'on a souvent un problème avec ça.
Et donc, il faut en parler. Et c'est bien que les cinéastes s'en emparent et montrent un point de vue.
Mais malheureusement, on sait comment ça se termine.
Ah ouais. Mais on peut peut-être
Et Gaspard Noé ne nous épargne pas l'issue.
J'avais vu un film au CAM, pour moi, magnifique, qui s'appelait Le Portrait, qui était un film qui était fait en autoproduction d'un cinéaste qui avait déjà fait autre chose. Je vous retrouverai Leclerc, je crois. Mais c'est un film, c'est sur la mort. C'est un film qui a été multi-récompensé, Amérique du Nord, Amérique du Sud, et en France, aucun distributeur. On ne parle pas de récompense, pas de distributeur. Mais c'est un film magnifique. Si vous allez, je crois que Leclerc, je ne sais plus comment il s'appelait, mais je vous retrouverai le nom. Mais si vous, je crois qu'il est sur Internet. C'est vraiment un film à voir, Le Portrait.
Je voulais dire une toute dernière chose sur Vortex. Sur Vortex, Céline. C'est le fait quand même Gaspard Noé ait quand même choisi pour jouer le rôle principal le cinéaste italien Dario Argento. On sait que Gaspard Noé est, tout comme moi et comme certaines autres personnes, un cinéphile déviant qui adore le cinéma de genre et le cinéma d'horreur. Et Dario Argento, c'est quand même le grand nom du cinéma d'horreur européen, italien et européen des années 70 et 80. Mm-hmm. Et ce n'est pas un hasard si Gaspard Noé lui a demandé, pour la première et sans doute unique fois de sa carrière, de faire l'acteur et il s'en tire quand même très bien.
Ça va. Et Dario Argento et Françoise Lebrun, qui joue.
Il ne faut pas oublier Françoise Lebrun, qui est extraordinaire aussi,
qui est incroyable et qui a notamment joué dans La Maman et la Putain.
Voilà, c'est ce que j'ai dit. On va beaucoup reparler puisque La Maman et la Putain ressort et sur France Inter ce soir, on reparle dans l'heure bleue de
Laure Adler.
Laure Adler, on reparle de la maman.
Oui, puisque le film effectivement est diffusé à Cannes projeté à Cannes en version remasterisée, en version 4K remasterisée. Ce qui est quand même un événement, c'est vrai.
C'est la version longue ou pas ?
Oui, c'est la version intégrale.
4 heures.
Oui, c'est la version intégrale. 3h40.
Eh bien, je vous propose de faire une petite pause musicale en écoutant une bande originale. D'un film que Gov va peut-être nous parler juste après. C'est la bande originale du film Hit the Road de Pana Panahi. Il a fait appel au compositeur iranien Peyman Yazdanian. Et donc, je vous propose d'écouter un morceau et on se retrouve juste après.
Thank you.
Et vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans 88.3 FM. Et vous êtes toujours sur l'émission consacrée à l'actualité cinématographique. Alors, on se fait un film. Et je vais donner la parole à Gob, qui va nous parler du film, du premier film de Panapanay Hit the Road, dont on vient d'écouter un morceau de la bande originale. Je te laisse la parole.
Alors, Hit the Road, c'est le film d'un fils d'eux, comme on dit, puisque Panapanay, c'est le fils de Jafar Panahi, grand cinéaste iranien qui, dans les années, fin des années 80, début des années 90, avait fait des films très remarqués, notamment à Cannes, Le Ballon Blanc, Le Cercle, Ceci n'est pas un film, entre autres, Taxi Téhéran, qui étaient tous des films remarquables. Et donc, comme on dit, bon sang ne saurait mentir, le fils a beaucoup de talent. C'est un premier film vraiment très réussi. C'est une chronique. Alors, on sent effectivement l'influence du père, parce que ça se passe presque entièrement dans une voiture où le père, la mère, leur fils, leur très jeune fils et leur fils plus âgé sont en fuite. On devine, on pressent qu'ils sont poursuivis, qu'ils sont recherchés. Le fils, apparemment, c'est sur le fils que se concentrent les recherches, puisque c'est lui qu'ils accompagnent pour lui faire passer la frontière iranienne. Après, on n'en saura pas vraiment plus. Le film se concentrant sur les personnages eux-mêmes et sur leurs relations filiales, maritales. Les personnages, c'est très très bien écrit. Les personnages sont tous très attachants. Le petit gamin, franchement, l'acteur est épatant. Le personnage est très bien écrit. Il a une vitalité, il y a une joie de vivre et qui se dégage de cet enfant. On le disait en antenne avec Céline, il y a des chansons, il y a beaucoup de chansons dans le film qui sont extrêmement bien choisies, qui ponctuent l'action avec beaucoup d'intelligence et on se surprend à être vraiment emporté, ému par ces chansons. Et puis, comme Claude, ça c'est pour toi, mais c'est un cinéaste quoi. Il filme le désert, il filme la nature avec beaucoup de poésie. Il sait manier le plan large et le grand angle avec un talent incroyable. On est pris vraiment visuellement par le film. Et c'est tout simple, hein, l'histoire est toute simple. Il y a quelques scènes comme ça qui sont toutes simples, qui sont des dialogues entre les différents membres de la famille. En fait, il fait en sorte que chacun des membres de la famille ait un dialogue particulier avec l'autre et il y a des choses qui se révèlent d'eux-mêmes, de leur relation, de ce qu'ils ont vécu ensemble et ça donne une épaisseur romanesque, une épaisseur psychologique de plus en plus évidente au film. Voilà, moi j'ai été vraiment très conquis par ce film. J'ai passé un très très bon moment et je suis sorti ravi en me disant que le fils allait certainement nous offrir à 20 ans d'intervalle des films aussi beaux et aussi intéressants que le père.
Alors moi j'avais un petit peu tempéré ton enthousiasme parce que j'ai trouvé que c'était un film extrêmement poétique. Et il y avait du cinéma. Il y a vraiment des grands moments de cinéma. Le reproche que je fais, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas, à mon avis, assez travaillées. Et pour moi, et je vais t'en citer une, c'est quand il renverse le cycliste. Il en fait quoi de ça dans le film? Pas grand-chose. Qu'est-ce que ça apporte?
Bah, si, moi je suis pas d'accord avec toi, en même temps, moi j'aime pas tellement raconter des éléments précis de l'histoire. Moi je pense qu'il en fait suffisamment par rapport au film, c'est-à-dire que c'est un moment drôle, avec en plus des choses très drôles quand il parle de Armstrong et tout ça, c'est quand il parle. Et il y a comme une finalité, c'est comme une sorte de sketch. C'est comme une sorte de sketch dans le film avec une finalité. Enfin, pour moi, hein, après.
Oui, alors, il a renversé ce cycliste. Bon, enfin. À discuter, à voir. Il faudrait voir le rapport d'accident, s'il y en avait un. Mais il aurait pu dire quelque chose sur la société iranienne à ce moment-là. Moi, j'imaginais que le cycliste, attendez, moi, je pouvais gagner cette course, ça m'avait rapporté tant. Moi, il va falloir me dédommager. La corruption, c'est monstre en Iran.
Je vois ce que tu veux dire, Claude. Mais là où je te contredis un peu, c'est que...
Oui.
des films iraniens, et on en a vu encore l'année dernière. On a vu Le Client de Faradi, qui est un film magnifique. On a vu le Diable, là, le, je ne sais plus comment s'appelait ce film exactement, de Rasoulov, là, qui était magnifique aussi, qui sont des grands films. Et tout le cinéma de Kiarostami et de nombreux films ont dénoncé iraniens la loi de Téhéran, l'an dernier, qui était un film extraordinaire aussi, qui eux étaient des films vraiment qui dénonçaient la corruption, la saleté, on va dire, de la société iranienne. Tout là, je pense que c'est pas le propos de ce film là. La politique est en arrière-plan, et si tu veux, c'est pour moi, c'est un peu comme un Little Miss Sunshine iranien. C'est vraiment un film léger et poétique qui est axé sur les rapports entre les membres de cette famille, et le politique, le social et tout passe derrière. Et pour une fois, si dans un film iranien, c'est plus le côté poétique, filial, familial et tout qui passe devant, tant mieux. Tant mieux, parce que ça prouve aussi que les Iraniens ne font pas uniquement des films à charge, ils peuvent aussi faire des films plus légers.
Oui, ça peut être...
C'est mon analyse.
C'est un point de vue. Par contre, on est d'accord sur le fait qu'il y a beaucoup de poésie et beaucoup de cinéma. Beaucoup plus que chez le père.
Bon. Oui, donc, mais ceci dit, c'est la preuve, effectivement, que le père était lui plus... dans le cinéma revendicatif et combattant.
On est d'accord là.
Mais je ne l'ai pas vu, mais en tout cas, vous me donnez quand même envie tous les deux de le voir, parce que effectivement, c'est du cinéma iranien qu'il faut quand même aller voir et soutenir. Donc, dès que j'aurai la possibilité.
Ça reste un des cinémas contemporains avec le plus de vitalité et le plus de films intéressants. Enfin, je pense.
C'est pas la première fois qu'un film iranien dit ça. Le seul espace de liberté qu'ils ont, c'est dans la voiture. Oui. Et encore, sans les portables.
Oui, le portable,
il est mis, il est enterré dans un endroit. Ça veut dire que
la
liberté est un mot qui ne doit pas exister en Iran, à mon avis.
C'est vrai, c'est bien de le rappeler qu'ils ne peuvent pas tourner effectivement dans la rue librement. C'est très compliqué.
Moi, j'ai vu un film iranien. C'était un escale documentaire. Alors, je ne sais pas comment... J'ai discuté avec la réalisatrice. On la voit à un moment... Alors, bien sûr, elle n'est pas en maillot de bain. Elle a un burkini ou un truc comme ça. Mais elle se baigne dans une piscine avec des mecs. Hein. C'est quand même... Je lui dis, mais comment t'as fait pour tourner ça ?
La police n'est pas partout non plus.
Non, je veux dire, elle me dit, là, tu sais, si tu tournes très loin de Téhéran, les mollahs, ils ont autre chose à faire. Donc, il ne faut surtout pas tourner à Téhéran. D'ailleurs, il tourne à la frontière de la Turquie, notre ami.
Eh bien, on peut passer à un autre film avec Claude que tu viens de voir, qui est encore à l'affiche. C'est le film de Fabienne Berthaud, Tom.
Que je ne connaissais pas, d'ailleurs, et qui s'appelle Tom. Et c'est une histoire très conventionnelle. Alors, je ne vais pas dévoiler, mais c'est une femme qui vit peu édiquée, pas dans la misère, mais en grande précarité, très grande précarité, et qui vit seule avec son fils dans une caravane. Et le garçon, comme souvent dans ces milieux-là, est un garçon très éduqué, extrêmement intelligent à l'école. Et cette jeune femme va refaire une conversion, parce qu'elle travaille chez un marchand de primeur, enfin... Elle emplit le dépôt, enfin, des choses comme ça. Elle va donc faire une reconversion pour devenir aide-soignante. Donc, elle doit passer... Qui est un noble métier.
On ne le dira jamais assez.
Et qui, en plus, elle doit... Bon, alors, bien sûr, elle ne manie pas l'orthographe, elle ne manie pas... Et c'est le garçon qui va lui apprendre à ne pas faire de faute d'orthographe. Bon. Donc, dans ce film, s'instaure un rapport entre... la mère et le fils que je qualifierais de complètement inversé, dans la mesure où le fils a un certain pouvoir sur la mère, dans la mesure que c'est lui qui va l'éduquer, c'est lui qui sait, et elle, sa seule légitimité parentale, c'est d'être la mère, donc d'avoir un rôle éducatif, mais qu'elle n'est pas capable d'avoir. Donc ça pouvait être intéressant, sauf que c'est pas travaillé dans le film. Le scénario a quand même une grosse lacune à ce niveau-là. C'est pas travaillé. Parce que ça, ce type de rapport, ça peut être extrêmement intéressant. Hein. Rapport inversé, ça a déjà été fait, hein, mais c'est intéressant. Et débarque à un moment un homme, très très violent, qui s'en prend à cette femme, et je ne dirai pas qui c'est. Et cet homme va avoir, bien évidemment sympathiser avec ce garçon. Et je vous raconterai pas la fin, mais c'est extrêmement conventionnel. Je veux dire, moi, je m'attendais à une chose autre. C'est vraiment, ça finit bien. Hein. C'est drôlement bien, ça finit. Bon, je pense que... Et pourtant, ils étaient à trois au scénario. Il y a quand même, moi, je pense, il n'y a pas trop de cinéma non plus, mais il y a quand même une grosse faiblesse dans le scénario. Ensuite, alors, l'interprète, ils sont tous bons. Alors, petite anecdote pour l'interprète, je suis allé dimanche après-midi, et puis j'avais des gens un peu bruyants, et puis à la fin, ils disent « Oh, bravo, Tom, c'est bien !» Je regarde, et Tom était là. Tom est un acteur orléanais dans une agence de cinéma. Et ce que me disait Myriam ce matin, il dit « Tous les jours, il y a des gens de sa famille qui viennent voir le film. » Ils nous l'auraient dit, on aurait fait une séance spéciale, on aurait fait venir. Mmh. Oui, ils n'ont rien demandé. Et donc,
Et tous les jours, ils viennent.
Et tous les jours, ils viennent.
C'est beau, quelque
part. C'est bien parce qu'ils devaient être à peu près plus d'une dizaine. Et s'ils n'étaient pas là, on aurait été deux, trois, quatre dans la salle. Quoi.
Eh bien...
Donc, le film est soutenu par la famille.
Ouais. Déjà, c'est bien.
C'est bien.
On peut faire une deuxième pause musicale avant de passer à la suite des chroniques, si vous voulez bien. Et là, cette fois, je vous propose d'écouter un morceau du film de Arnaud Malherbe, Ogre, que tu as vu, Gob. Et donc, il a fait appel au compositeur danois Flemming Nordkrog, et dont je vous propose d'écouter un passage. Et puis, on se retrouve juste après pour parler du film. Et vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans. Quelle ambiance avec cette musique, cette bande originale du film Ogre, actuellement à l'affiche, le dernier film de Arnaud Malherbe. Gob, tu...
Oui, je vais en dire un petit mot. Il n'est plus à l'affiche, Céline. Non, il a fait un passage éclair dans les salles orléanaises. Moi, c'est un film qui avait tout pour me plaire. C'est un film de genre. C'est un film fantastique à la française. C'est un conte. C'est intéressant parce que c'est mêlé un cinéma, on va dire, d'horreur qui joue plus la carte du merveilleux et de la poésie que de l'horreur frontale. On est assez proche finalement de l'univers de Del Toro dans Le Labyrinthe de Pan, par exemple. On sent qu'Arno Malherbe s'en est beaucoup inspiré. Après, il a un style, il a un vrai style, il a une patte. Il a situé son histoire dans la campagne, dans un village français. Donc c'est on y croit. Tout est crédible. Et c'est très très bien joué comme d'habitude par Anna Girardot. Et puis bah, effectivement, il a su traduire en images les contes de notre enfance avec l'ogre qui surgit de la forêt. Voilà, c'est littéralement ça. Et l'ogre, c'est aussi effectivement symboliquement les peurs liées à l'enfance. Là, il y a l'enfance de cet enfant qui est un enfant tourmenté parce que son père est parti, qu'il a une relation qui n'est pas toujours facile avec sa mère. C'est très, très, très bien photographié. Il y a des images de forêt, de nuit qui sont vraiment, vraiment angoissantes. Il y a un vrai climat, une vraie ambiance. Voilà, ce n'est pas un très grand film, mais c'est une vraie bonne série B fantastique à l'européenne. Et on ne voit pas si souvent ça chez nous. Donc voilà, moi, c'est un film que j'ai vraiment aimé.
Est-ce que c'est un réalisateur français, Arno Malherbe? Je le connais pas.
C'est un jeune réalisateur. Il a déjà fait plusieurs courts-métrages qui avaient été remarqués. Mm-hmm. Et là, il passe au long. Et apparemment, j'avais une interview dans Mad où il avait dit qu'il a quand même eu beaucoup de mal à monter son film. Il s'est accroché à l'arrivée, ça donne quand même un film vraiment réussi et qui, bon, malheureusement, ne touchera pas un grand public. Peut-être il se rattrapera en diffusion télé ou en vidéo. Je lui souhaite en tout cas.
Mais il fait que du cinéma de genre ou pas forcément?
Bah, apparemment, ses courts-métrages étaient plutôt orientés dans le genre. On verra. Mm-hmm. Je pense que c'est quelqu'un qui fera des choses différentes. Je pense. Hein.
Ok.
On verra la suite.
Eh bien, voilà, c'était Ogre de Arno Malherbe. On peut passer au film suivant. On peut parler peut-être du film de Hamaguchi, qui n'est plus non plus à l'affiche, Les contes du hasard et autres fantaisies.
Je te laisse commencer, Céline, puisque tu l'as vu.
Eh bien, allez. Et donc, c'est le dernier film de Ryusuke Hamaguchi, qui est le réalisateur de Drive My Car, qui a cartonné. Donc là, c'est son dernier film, qui a reçu le Grand Prix du jury au Festival de Berlin en 2021. Donc c'est déjà un bon début. Donc Contes du hasard et autres fantaisies, il a la particularité d'être composé de trois histoires indépendantes avec chaque histoire, avec leur propre personnage. Et donc, trois histoires d'amour dont le passé rebondit dans le présent. Et la particularité aussi, c'est que les personnages principaux sont tous féminins. Moi, j'ai beaucoup apprécié tout le travail des dialogues. C'est très écrit. Les dialogues sont très importants dans son cinéma. J'ai l'impression beaucoup plus que l'esthétique, que l'image. Mais voilà, ce qui est vraiment important, ce sont les histoires, c'est ce qu'il raconte, c'est comment on est surpris par l'évolution avec des basculements qui arrivent sans prévenir. C'est très très astucieux, c'est très bien écrit. Voilà, la mise en scène est très simple, mais j'ai lu en fait qu'il faisait très peu de prises de vue avec les scènes qui sont jouées intégralement. Donc c'est généralement des plans d'ensemble et des plans moyens. Donc c'est vraiment une photographie classique et une mise en scène assez classique. Mais encore une fois, donc tout se trouve dans les dialogues. J'étais même très surprise par certains choix pour ce réalisateur qui est japonais, parce qu'il y a des passages, il y a une lecture d'un texte pornographique quand même. Enfin, je suis surprise parce que dans la culture japonaise, publiquement, c'est plutôt un peuple pudique. Et
mais on voit pas de poils. C'est que c'est interdit, ça, dans le cinéma japonais.
Et il y a aussi... Non, mais tu peux intervenir, Claude. Et il y a aussi un personnage lesbien. Donc c'est... pour lui, j'ai lu aussi que pour lui, la sexualité est un moyen d'atteindre le bonheur. Donc pour lui, c'est un sujet qui est très, très important. Et donc j'ai plutôt passé un très bon moment. Et je trouvais qu'en termes d'écriture, c'était très, très astucieux.
Bah écoute, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Moi, effectivement, Drive My Car, qui était un film déjà, qui était un film magnifique, qui a été primé un peu partout et qui a eu l'Oscar du meilleur film étranger. C'est Hamaguchi, c'est vraiment ça. C'est, enfin, tu disais, moi, je pense qu'il s'inscrit complètement dans la culture japonaise, dans la culture asiatique, et même, c'est vrai, tu as raison, c'est, le centre. Mais c'était déjà le cas de Drive My Car. Si vous vous souvenez du début de Drive My Car, le personnage trouve son aspiration et trouve une aspiration artistique et philosophique, si on peut dire, à travers une relation sexuelle intense qu'il a avec son épouse dès le début du film. Donc je pense que c'est au cœur de son cinéma. Mmh. Et là, effectivement, ces trois histoires qui tournent autour des rapports de couple, autour du sexe, autour du, comme tu disais, autour du souvenir, autour de, et il mélange tout ça avec beaucoup d'harmonie. Comme tu disais, c'est extrêmement bien écrit. Et pour ça, il se rattache, et il l'a dit, hein, il l'a déjà dit plusieurs fois, c'est un cinéaste qui se rattache complètement à une tradition, notamment du cinéma français de la nouvelle vague, des films très écrits, et surtout, c'est un grand admirateur de Eric Rohmer, oui. C'est évident. Quand on voit tous ces dialogues très écrits, tous ces personnages qui parlent de l'amour, du sexe et tout, avec en phase, avec des mots très écrits, on est vraiment dans ce cinéma européen, on est vraiment, et où je trouve que c'est très très intéressant Hamaguchi, c'est qu'il arrive à faire une espèce de mix entre ce cinéma, on va dire presque un cinéma libertin, on va dire un cinéma érotique à l'européenne, avec la culture asiatique, avec la culture japonaise. Il arrive à faire un mix des deux. Et il est sur un équilibre très ténu et il arrive à tenir ça. Et tu parlais de cette fameuse scène qui est magistrale, hein, où elle lit ce texte pornographique, et il arrive à tenir cette scène qui pourrait tomber dans le ridicule. Il arrive à tenir. Et en plus, il arrive d'autant plus à la tenir qu'on voit, au début, on ne sait pas trop ce que pense le personnage qui entend, qui a écrit le texte en plus. Et petit à petit, il y a toute une amertume, un recul d'amertume par rapport à ce personnage qui naît de la lecture de et puis elle-même, le personnage féminin va se faire prendre. Elle est là dans un but qui est pas vraiment un but très 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 louable, et elle va se faire prendre par ce texte, elle va se faire prendre par l'émotion, elle va se faire prendre par ce type qui a écrit ce texte, et il y a quelque chose vraiment de très beau et de très émouvant. Et c'est un peu, finalement, ça rejoint quelque part, c'est marrant parce que c'est des cinéastes tellement différents, mais ça rejoint un peu Gaspard Noé quelque part, parce que c'est des cinéastes qui font un cinéma très conceptuel. Tu disais, les plans sont très... des longs plans qu'on fait, des scènes qu'on fait durer très longtemps, des dialogues très, très écrits. Et de tout ça, cette conceptualité, naît une vraie émotion. Et je dis que le cinéma, c'est ça aussi. C'est quelque chose de construit. C'est quelque chose qui ne vient pas de nulle part. C'est des cinéastes, des artistes, en tout cas les artistes, qui construisent quelque chose avec leur caméra, qui font quelque chose de très précis. Et y a ceux qui arrivent à faire naître une émotion, une poésie, et puis les autres. Et Hamaguchi et Noé, ils font partie de cette famille de cinéastes qui arrivent à faire naître de l'émotion, de leur concept. Et ça, c'est très fort.
Ouais, je te rejoins.
Drive My Car, j'avais énormément aimé ce film. Et ce que tu dis est très juste sur l'importance du sexe. Et notamment, on peut en parler maintenant, ce garçon rentre chez lui l'après-midi à l'improviste et s'aperçoit que sa femme est en train de faire l'amour avec un autre homme. Bon. Et c'est parfaitement admis par lui. Et je me disais, mais quelle est la scène qui va déclencher le film ? Et elle n'arrive qu'au bout d'une heure, c'est quand on fait son casting, quand il fait son casting, que cet homme qu'il a vu faire l'amour avec sa femme se présente. Et là, je trouve que c'est... Et bien sûr, il le prend. Et là, ça déclenche encore quelque chose à l'intérieur de lui. Moi, j'ai, pour moi, enfin, faut dire que quand je l'ai vu, j'étais fatigué, là, les trois films là. J'ai un petit peu peiné sur ce cinéma-là. Beaucoup plus que sur Drive My Car. Pour Drive My Car, j'avais été captivé. Là, il aurait fallu que j'aille le revoir.
Mais c'est vrai que sur l'écriture, il y a ce point de basculement auquel on ne s'y attend pas. Et ça, il est très doué.
Hein.
T'as raison. C'est vrai que dans toutes ces histoires, et dans Drive My Car, ça fonctionnait déjà comme ça. Et dans Scène 6, pareil. Et c'est un cinéaste qui a le. Et dans Asako, qui était aussi un très beau film, où il y a toujours un point de basculement dans ces films où il arrive à te retourner, retourner l'histoire, à retourner le spectateur. Et ça, c'est très fort parce qu'il arrive à créer ça dans chacun de ses films.
C'est ce qu'on appelle, dans les scénarios, c'est une clé de voûte. C'est la clé de voûte, c'est au moment où ça bascule. Normalement, dans un scénario, les puristes vous diront que dans un scénario bien écrit, il y a toujours y avoir une clé de voûte. Bon, moi, je veux bien. Mais lui, Drive My Car, c'est une écriture très intelligente sur le plan scénaristique, mais extrêmement conventionnel. Hein, en plus, il a des qualités de réalisateur. Hein, les plans sont quand même sacrément travaillés. Hein.
Oui. Quand je disais la conceptualisation, c'est tout est. Il n'y a rien de plus difficile que de faire des. Tu sais, tu peux remonter aux origines du cinéma, il n'y a rien de plus difficile que de faire des films où, à un moment donné, le spectateur ne se rend même plus compte que t'es en train de faire, de construire tes plans et tout, parce que justement t'es tellement pris par le dialogue, par ce qui est raconté et par ce qui s'échange entre les personnages, que tu te rends compte. Et après, quand tu y repenses, tu te dis, ah bah oui, quand même, il y a quand même du cinéma aussi là-dedans, quoi.
Oui, c'est vrai, quand tu oublies le montage, toute la technique,
quand il cut, tu n'en aperçois pas.
Et bien voilà, si ça ne vous donne pas envie d'y aller, en même temps, il est plus à l'affiche. Mais bon, vous le verrez par un autre moyen.
Il sera certainement disponible en VOD, sur des plateformes. Je pense qu'il sera très...
On est sûr que vous le verrez.
Xavier va me le confirmer, on me l'a affirmé, mais je pense qu'en ce moment, Parasite passe sur Canal+.
Non, il est passé sur Arte.
Ah, c'est sur Arte, pardon.
Exactement. Très bonne chose. Ça a dû faire un peu d'audience sur Arte, c'est bien.
Alors, oui, tant Parasite, qui a eu la palme il y a deux ans. De Bong Joon-ho,
La palme, l'Oscar, tout, il a tout raflé.
Eh bien, on peut continuer. On peut faire une pause musicale encore.
Une dernière petite pause musicale.
Une dernière avant les derniers films, parce qu'il n'en reste plus beaucoup. Je vous propose d'écouter un morceau de la bande originale des Passagers de la Nuit. Les Passagers de la Nuit qui... Alors, attendez que je ne me trompe pas. Donc Les Passagers de la Nuit, réalisé par Michael Hirst, il a donc fait appel au compositeur américain Anton Sanko, et dont je vous propose d'écouter un extrait, et on se retrouve juste après sur Radio Campus Orléans.
Thank you.
Quelle belle sonorité électronique du compositeur Anton Sanko, qui a donc créé la musique originale du film Les Passagers de la Nuit, dont Gob a pu voir au cinéma.
Ouais, alors Les Passagers de la Nuit, c'est un film qui, lui, est toujours à l'affiche chez nos amis des Carmes. C'est un très beau film. Moi, je ne peux que vous encourager à aller le voir. C'est un très beau film français. Hors antenne, tout à l'heure, on parlait avec Claude du cinéma de François Truffaut. Moi, je pense que ce réalisateur, Michael Hertz, c'est un héritier de François Truffaut. C'est un héritier de François Truffaut et c'est un cousin de François Ozon. Je pense que leurs deux cinémas ont les mêmes qualités, sens du romanesque, des scénarios qui tournent souvent autour du temps qui passe, du souvenir. Là, c'est un film qui, comme Été 85, se passe au milieu du début des années 80. Ça commence en 1981, au moment de l'élection de François Mitterrand, et ça va jusqu'en 1988. C'est en centré sur une femme qui est jouée par Charlotte Gainsbourg, qui est quittée par son mari, qui part avec une femme plus jeune. Elle se retrouve avec ses deux enfants, son fils et sa fille adolescents. Elle n'a jamais réellement travaillé. Elle va essayer de trouver du travail. Elle va essayer de réapprendre à vivre différemment. C'est une histoire toute simple. C'est une histoire toute simple, mais qui justement est transfigurée par le montage, la mise en scène. C'est extrêmement poétique. Après, Michael Hertz, il n'en est pas à son premier film. Moi, j'avais vu ses deux précédents films, Ce sentiment de l'été et surtout Amanda, qui était vraiment un film magnifique, Amanda. Et c'est quelqu'un qui sait filmer des histoires toutes simples avec énormément de sensibilité. Les dialogues sont très bien écrits. Disons qu'à travers ces histoires toutes simples, il dit des choses très fortes et très essentielles sur les rapports dans le couple, sur les rapports entre les parents et les enfants, sur la fuite du temps. En plus, il mélange des images d'archives des années 80 aux images du film. Il mélange à ces images d'archives des images de films de l'époque. Et en plus, il y a un travail remarquable avec le directeur de la photographie, puisqu'il arrivait à trouver un grain d'image qui fait que toutes ces images, les images du film, les images d'archives, les images de films des années 80, se marient esthétiquement parfaitement. Et il est arrivé à trouver un grain d'image qui permette ça. Et rien que ça, déjà, tu te dis quel boulot esthétiquement. Et après, bah oui, et déjà dans ses deux précédents films, c'était le cas. Il filme, notamment, il filme les espaces verts, il filme les jardins, il filme les tours dans Paris. Il filme tout ça avec une poésie, avec de lents mouvements de caméra, très beau, très ample. Il y a comme dirait Claude, il y a de la mise en scène tout le temps. On est ravis par ça. Et puis l'histoire est belle, l'histoire est forte. C'est simple, mais extrêmement bien écrit, bien joué. Charlotte Gainsbourg est formidable. Moi, je pense qu'elle n'a jamais été aussi bonne que dans ce film-là. Elle porte le film vraiment, elle irradie. Emmanuel Béard, dans un rôle un petit peu plus en retrait, est très, très juste aussi. Les deux adolescents sont très, très bons aussi. Il y a vraiment l'interprétation est à saluer dans son ensemble. Et franchement, c'est un film, peut-être que certains, comme des fois il y a des gens qui dénigrent par exemple quelqu'un comme Ozon, je parlais de lui tout à l'heure en disant ils vont dire c'est la qualité France, mais moi je trouve que il y a dans ce film là, oui, c'est le prolongement de la qualité France, mais il y a un petit quelque chose en plus. Il y a c'est un cinéma où il y a un supplément d'âme, il y a un supplément d'âme, il y a un supplément de poésie. Et comme on dit, ça emporte le morceau, ça emballe le tout et ça emporte le morceau. Et franchement, on sort ravis et on se dit, mais pourvu qu'on ait encore longtemps la chance de voir des films au cinéma, de voir des films faits par des réalisateurs de ce talent-là. Et moi, je pense en plus que c'est des films qui peuvent parler à un large public. Moi, j'en reste persuadé. Et j'espère effectivement que le film continuera à marcher un petit peu au Carmes, parce que dans des salles, dans des multiplexes, effectivement, c'est des films qui sortent encore dans les multiplexes, mais qui n'y trouvent pas leur place. Il faut être conscient de ça. Et pourtant, c'est des films français de qualité. Et toi, quelqu'un comme Ozon, bah, c'est quelqu'un qui ramène encore des gens dans les salles. Et moi, j'estime qu'un film comme ça devrait ramener dans les salles le million de spectateurs que font les films d'Ozon à chaque film. Après, pourquoi ça n'est pas le cas je ne sais pas.
Il arrive peut-être pas au bon moment, mais en tout cas, les Carmes lui laissent le temps. Manu nous en avait aussi parlé il y a deux semaines de ce film. Il l'avait beaucoup apprécié.
Et Fabien a beaucoup apprécié le film.
Fabien l'a aussi vu, il t'a dit aussi qu'il l'avait
apprécié. Il faut que j'aille le voir parce que... Mm-hmm.
Eh bien, je suppose qu'il ne reste plus beaucoup de séances, donc il faut vraiment y aller très vite. Mais
Là, en plus, avec toutes les sorties de Cannes, c'est vrai que même pour les Cannes, ça va devenir difficile aussi.
Mais heureusement que tous les films de Cannes.
De la place pour tout le monde.
Mais les films de Cannes ne sortent pas tous en même temps. Donc ça va. Eh bien, nous arrivons à la fin de l'émission.
On peut peut-être, du coup, Céline, glisser quand même un petit mot de films qu'on n'a pas vus, mais qui font quand même envie.
Tu penses à un film en particulier.
Oui, moi, en particulier, il y a le film de Cornel Moudrounchko qui s'appelle Évolution, parce que c'est un cinéaste hongrois qui avait fait White God, qui a fait La Lune de Jupiter, qui pour moi est un des plus grands cinéastes contemporains.
C'est un film à voir, ça.
Et je pense vraiment que c'est un... Je ne l'ai pas vu.
C'était mes projets.
Oui, voilà, je pense vraiment que ça va être un grand film.
Il est sorti aujourd'hui.
Je m'engage là-dessus, on va dire, voilà.
Il est sorti aujourd'hui.
Ouais. Mm-hmm. Et puis, effectivement, le Serge Boson, Don Juan, le dernier des Pléchins. Enfin, il y a énormément de films qui semblent vraiment intéressants sur le papier, mm-hmm. qui sortent aujourd'hui.
Dont la plupart sont au Festival de Cannes.
À Cannes.
Pour des Pléchins, j'avais tellement été déçu par son dernier film où il était retombé dans ses travers verbeux, bavards.
C'est pour ça qu'on verra, là.
Eh bien, il faut voir son dernier film.
C'est pour ça qu'on verra. Et puis, oui, un dernier petit film que je n'ai pas vu, mais que je vais aller voir aussi, parce que c'est un réalisateur très intéressant aussi. C'est le film de Justin Kersel, qui est un réalisateur de l'Est aussi, qui avait fait une version très baroque, très, un peu dingue de Macbeth. Qui avait fait dans un registre complètement différent Assassin's Creed, l'adaptation du jeu vidéo. C'est un cinéaste qui avait fait Les Crimes de Snowtown, parce que c'est un cinéaste qui est originaire de l'Est, mais qui a passé toute son enfance et sa jeunesse en Australie. Et donc il avait fait ce film, Les Crimes de Snowtown, c'était un film australien. Et là, il a fait un film qui s'appelle Nitram.
Voilà, c'est ce que je voulais dire. Le film à voir, c'est Nitram.
Voilà, tu vois, Claude. Ah ouais. Voilà. Et ce film a l'air extraordinaire. Ah, sur un tueur en série, sur un tueur de masse en Australie. Et le film a l'air vraiment extraordinaire. Oui. Voilà.
Donc,
si avec ça, vous n'allez pas au cinéma...
Nitram
était dans mes projets et je n'ai pas pu y aller. Mais même Les Carmes me le recommandent. Hein.
Eh bien,
Romain
allez-y.
Les Carmes me dit « Nitram, c'est le film à voir en priorité ». Avec l'émotion.
Allez-y. Donc,
n'hésitez pas, allez-y.
L'émission « Alors on souhaite un film » arrive à sa fin. Mercredi prochain, c'est l'autre équipe de Vincent, Arnaud, Julien qui parlera de cinéma. Et nous, on se retrouve dans 15 jours, donc mercredi de 19h à 20h. Je vous dis bonne soirée. Merci d'avoir été avec moi ce soir pour parler de cinéma.
Merci d'avoir assuré la technique, Céline, comme d'habitude.
Avec plaisir.
Est-ce qu'on fera un top 5 cette année ou pas ?
Eh bien, on va en reparler, mais oui, certainement. Certainement en juillet, pourquoi pas, oui. Oui, on en reparle. Et mes chers auditeuristes, restez sur Radio Campus Orléans, car il y a d'autres musiques et émissions qui vous attendent. Passez une très bonne soirée et allez au cinéma.
Eh oui,
salut à tous et à toutes. Change of feeling, being broke hurt your soul, and I just wanna know, was it really worth it when you niggas?